Bon vendredi, on est le 10 août, je m'appelle Jeff Blanchette, je m'installe pour les 4 prochaines heures, on les a les 4 au complet, il n'y a pas de pro-am ce soir au Centre Vidéotron, il n'y a pas d'avant-match non plus, ça va recommencer lundi. On a une équipe pratiquement complète cette semaine, ben aujourd'hui en fait, merci. En vue de la semaine prochaine. Paul Raphaël, t'es l'intrus du jour.
Ben c'est vraiment ce match.
Mais je suis content que tu sois là, c'est pas ça que je dis.
Ça paraît.
C'est mon dernier show à l'animation dans cette période estivale en fait.
Après 9 semaines,
9
Jeff.
Semaines, mon
9
gars.
Semaines, là, c'est presque un cinquième de l'année. 52 semaines dans l'année, t'en as fait 9 consécutives. Tu sens-tu une petite nostalgie de laisser aller le poulain que t'étais en train de chevaucher?
Ça va être bizarre lundi de commencer puis d'être assis de l'autre côté de la table devant Eric.
Ouais.
Tu comprends?
Oui, je comprends.
On va avoir une nouvelle chimie, une nouvelle émission à produire, mais je me suis habitué à être assis là devant
ben
télé,
oui,
puis de leader la patente. T'sais, 9 semaines, c'est rendu ma routine.
Une petite nostalgie.
Ouais, un petit peu. Un petit peu. Puis je regardais les étés précédents parce que c'est mon troisième été dans ce rôle-là, dans le retour. J'avais fait 4 semaines en 2016, 5 semaines l'an dernier. Fait que là, tu vois, j'ai additionné les deux cette année, ça a fait 9. Puis je me suis installé, on a fait de la radio. Fait que.
Ben oui. C'est un bon été. T'as bien fait ça. Je me permets de te dire.
Merci.
T'as très bien fait ça.
J'ai vraiment aimé ça. Puis je prendrai le temps de remercier tout le monde là, à la fin de l'émission cet après-midi.
Ouais. Faites ça comme un grand.
Ça va être long, ça, par exemple. Ce segment-là, à la fin, il y a plein de 10 minutes.
Oui, si je veux nommer tout le monde et leur fonction, juste ça.
Ouais.
Je pourrais faire la nomenclature de tous ceux qui ont gravité autour de l'émission cet été. Il y a eu pas mal de monde qui m'ont donné un coup de pouce, puis ça a été vraiment apprécié. Donc, je prendrai quelques minutes pour les saluer à la fin du show. Avant de parler de notre pro-am hier soir, on est en attente d'un point de presse des autorités du côté de Fredericton. Julie, qu'est-ce qu'on sait jusqu'à maintenant sur ce qui s'est passé aujourd'hui?
Ben écoute, j'ai envie de vous dire, imaginez-vous, vous êtes en train de manger vos toasts le matin, vous dormez, puis vous faites réveiller par une pétarade de coups de feu. J'imagine que vous faites le saut. En tout cas, moi, je m'imagine dans mon quartier, puis je vois pas ça venir, mais pas du tout. Mm-hmm. Alors, c'est ça qui est arrivé ce matin pour des résidents de Fredericton. Ce qu'on sait, le point, c'est que 4 personnes ont été tuées, dont 2 policiers. Il y aurait plusieurs blessés, parce que du côté du centre hospitalier à Fredericton, il y a quand même plusieurs personnes qui ont été reçues du côté de l'hôpital. Donc, autour de 8 heures, le quartier qui a été envahi rapidement par les policiers, des dizaines de voitures de police, des véhicules blindés. Ça se serait passé dans un immeuble à logement. Mm-hmm. Mais encore là, sur le déroulement des événements, on va avoir vraiment plus de détails à 14h30. Est-ce que c'est un appel de routine, entre guillemets, ou un appel qui a mal tourné? C'est la question que l'on se pose. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des balles perdues. Il y a une résidence qui dit il y a une balle qui est rentrée par la fenêtre chez moi puis qui atterrit dans la chambre de mon fils. Alors, tu sais, quand on parle de blessés, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui ont reçu des balles perdues? Alors, ce seront des réponses auxquelles on aura des réponses là, un peu plus tard. Beaucoup de commentaires, de réactions politiques aussi qui ont afflué. Philippe Couillard, le premier ministre aussi du Nouveau-Brunswick, Justin Trudeau. Alors, on fera le point, évidemment, tout à l'heure, puis on sera vraiment à l'écoute de ce point de presse-là. On a des collaborateurs aussi du côté du Nouveau-Brunswick là, qui pourront nous donner plus de détails.
Oui, à l'Acadie Nouvelle, puis également, on aimerait en savoir davantage sur le travail des policiers. Je sais que Jean-François Brochu est disponible cet après-midi pour nous parler. Donc, on pourra faire un peu le tour de cette triste histoire-là qui a débuté le vendredi du côté du Nouveau-Brunswick. Dernier soir, on était réunis dans un événement beaucoup plus festif. C'était le Pro-Am dont tu nous parlais depuis le début de la semaine. Il y a près de 10 000 personnes qui se sont déplacées pour assister au match entre les Bruins de Patrice Bergeron et les Sharks de Marc-Édouard Vlasic.
Ouais.
Tu as animé ton émission en direct de 17h à 19h. Tu t'es bien installé dans le coin de la place Jean-Béliveau comme
ouais,
ça.
Oui, puis c'était le fun. C'est-tu quoi? Il a fait beau. Sur l'heure du midi, puis même au début de l'émission, quand on s'est parlé, j'étais là-bas, vous étiez ici vers 14h. Là, c'était noir, tu sais, puis t'as beau regarder le plus loin que tu peux en direction de Trois-Rivières, puis il n'y avait rien d'encourageant.
Alors, on n'était pas sûr. Hein.
Puis finalement, ça a été bien correct, honnêtement, ça a été soleil, puis les gens ont apprécié. La participation, la présence des joueurs de la Ligue nationale, mais aussi leur grande générosité. J'ai parlé avec des chums qui s'étaient payé le trip d'être joueurs amateurs pour le match d'hier. Je leur ai parlé ce matin pour voir comment ils avaient vécu leur soirée, puis les deux ont adoré ça, puis ils ont souligné la classe de ces joueurs de la Ligue nationale. C'est pas tout de dire oui à Patrice ou de dire oui à Simon pour venir faire un match de hockey en plein milieu du Modo à Québec.
Ouais.
Mais si tu viens, pis ça a pas l'air de te tenter d'être là, rapidement, t'es capable de voir ça.
Mm-hmm.
Puis c'était pas le cas hier. C'est ça qui est le plus impressionnant dans l'histoire, parce que D'une part, ces joueurs de la Ligue nationale ne sont pas obligés de venir à Québec pour cet événement-là. S'ils viennent, c'est parce qu'ils ont un immense respect envers Simon Gagné et Patrice Bergeron. Et Marc-Édouard Vlasic, il faut le dire. Là, il leur donne un gros coup de main de plus en plus.
Oui.
Ben, ces gars-là étaient là. Ils étaient là pour les cinq causes à qui on a remis 428 000 $, faut le souligner quand même.
Pour une journée, là.
Exact. Alain Rioux et son groupe du comité organisateur et les nombreux bénévoles aux quatre coins de la ville hier et du centre Vidéotron ont fait un travail colossal. Mais les gars de la Ligue nationale étaient contents d'être là.
Mm-hmm.
On en a eu quelques-uns en entrevue, Will et moi, dans les sous-sols du centre Vidéotron. On en a eu au kiosque du FM 93 aussi. Puis tout le monde a passé une belle soirée. T'sais, je m'amusais à dire plus tard dans l'émission, je me souviens plus à quelle heure, je disais, c'est la journée où tout le monde sourit. Tout le monde a un sourire.
Ouais.
Le monsieur de 68 ans qui est venu voir son fils, on va l'appeler William parce qu'il y en a deux, trois William. on va dire qu'il s'appelle William, OK? Le grand-père qui regarde William jouer son mini-match, il est fier. Puis les mères de famille qui étaient là étaient fiers. Les gens qui jouaient le match pro-am comme amateurs sont fiers parce qu'ils vont côtoyer Bergeron, Vlasic, Gagné, Huberdeau, Marchessault et Le Cavalier. Les joueurs de la Ligue nationale ont le sourire. Les gens qui s'occupent des différentes fondations, les enfants qui ont rencontré ces joueurs-là, tout le monde est content, finalement. Il y a personne qui baboune dans une journée comme ça. Puis ça fait du bien de côtoyer des gens comme ça.
À un moment donné, j'ai vu Willy au loin, parce que j'étais là avec vous autres, j'ai vu Willy au loin, notre collègue qui donnait, il distribuait des lunettes.
Oui.
On avait des lunettes FM 93, exact. Des lunettes soleil, tu sais.
Oui.
Puis là, à un moment donné, il me fait signe, là, Paul, arrête de me regarder, puis viens m'aider, parce qu'il y avait plein de monde qui passait, qui voulait une paire de lunettes. Fait que je vais l'aider, puis on donne des paires de lunettes, puis on souriait, puis c'était sympathique, on saluait les gens. Puis je me suis rendu compte tout d'un coup que je venais de donner des lunettes. Ça, 5-10 minutes. Pas plus que ça, donner des lunettes. Tout d'un coup, j'ai réalisé que le monde qui avait les lunettes, il y avait entre, à vue de nez, 7 et 77 ans.
Ouais.
Vraiment, il y avait des gens de tous les âges, hein, hier, sur le parvis du centre Vidéotron. Moi, c'est ça qui m'a fait halluciner. Moi, dans ma tête, je me disais, ça, c'est vraiment pour les enfants. Tu sais, écoute, les jeunes proches des joueurs de hockey, ils les voyaient au loin quand ils présentaient les joueurs. Puis là, les enfants essayaient de se tailler une place pour voir les joueurs au loin,
ouais,
ou sur l'écran géant.
Ouais.
Mais les adultes aussi, ils trippaient finalement, ben, de, oui, voir leurs joueurs. Moi-même, genre, je voyais les joueurs au loin, je me disais, hey, j'ai pas été aussi proche de mes joueurs de hockey préférés. Dans ma vie, je pense pas les avoir côtoyés de si proche. Pourtant, il y avait une clôture, puis il était à 100 mètres. Mais ouais, il y avait de quoi de le faire. Je pense qu'il y a vraiment, il y en avait pour tous les autres.
Il n'y avait pas de séance d'autographe officielle hier pour l'événement, mais as-tu vu les photos dans le journal ce matin? C'est juste des joueurs de la Ligue nationale qui signent des autographes.
Ah oui, Brad Marchand qui était entouré de chandails des Bruins, puis en train de signer des T-shirts puis des rondelles. Là.
Les gars prennent le temps. Puis un des amateurs à qui j'ai parlé ce matin, il dit, JP, les gars, t'es-tu smart dans le vestiaire? Il dit, ouais, t'es smart, mais il dit, faut que je te parle d'un gars. Il dit, je t'avais déjà entendu dire en onde que le plus gentleman des joueurs de la Ligue nationale, c'était Antoine Vermette. Mais hier, je m'en suis rendu compte.
Ouais.
Il dit, tu l'avais déjà dit en onde, mais je réalisais pas jusqu'au point où je m'assois dans le vestiaire avec, je parle avec, je fasse des présences sur la patinoire avec, puis à la fin de la soirée, quand il a quitté, il est venu me dire salut. Mon chum, qui est joueur amateur, joueur de ligue de garage, il n'en revenait pas.
Ouais.
Mais moi, je l'ai déjà dit en onde, puis je peux le répéter aujourd'hui, étant donné que mon chum a vécu l'expérience hier, puis il me l'a raconté au téléphone ce matin.
On a une deuxième source, là.
C'est ça, exact.
Troisième.
Antoine Vermette, Jeff, il pourrait donner des cours de personnalité tellement ce gars-là est gentil.
Ouais.
Tu sais, des fois, tu parles à des gens, puis tu dis, ah, il m'a donné la main, puis il m'a regardé dans les yeux, ça lui tentait vraiment.
C'était
de...
pas pire.
Ouais, il était sincère, ça lui tentait vraiment de me parler. Mais lui, Antoine Vermette, là, il peut te parler jusqu'à temps que toi, tu décides quand est-ce que ça finit. Tu comprends?
Oui, il n'est pas là juste pour faire du small talk par politesse. Là, il s'intéresse à ce que la personne lui dit.
Exact.
Je pense qu'il aime le monde parce que moi, je l'ai croisé une fois à un événement.
C'est clair.
Au terminal de croisière, il y a un an ou deux. Événement caritatif organisé par Marc-Édouard Vlasic.
Oui, exact. D'autres la soirée des étoiles, je pense que ça
s'appelle. Comme ça.
Ouais.
Puis moi, j'allais là faire des scrums avec les joueurs de hockey pour la radio. Puis Antoine Vermette, il se trouve qu'il est allé à la même école secondaire que moi. Ça fait que là, j'avoue que j'ai peut-être un peu
débrayé
ma job, puis été un peu groupé. Je dis, hey, en tout cas, Antoine, hey, Collège de Lévis, yes sir. Puis là, tout d'un coup, il voit bien que je suis un jeune journaliste, je commence pas trop quoi. Ben écoute, je pense qu'on a jasé 10 minutes. Même pas pour le micro, rien. C'est juste que, ah ouais, au collège, hey, c'est drôle. Puis là, il se rappelait de souvenirs de collège de Lévis. Juste parce que moi, j'avais parlé de ça. Mais il y avait bien d'autres affaires à faire.
Ah ouais.
Mais moi, je m'en souviens, cela dit. Puis
exact.
Je l'avais tellement trouvé smart que quand tu l'as dit en nom que c'était un vrai gentleman, j'ai dit, ouais, Dan, il a raison. Puis là, tu vois, il l'a encore démontré. Je pense que c'est vraiment un gars qui aime le monde.
J'étais avec mon chum Luc Santerre, Jeff, que tu connais hier pour regarder la première période. Puis il y a eu deux constats. Luc. Il dit là, d'abord, il dit Malcolm Souben, il dit il est bien mauvais, lui. Parce que lui, il goalait pour les Blues.
Les premiers shots,
la game, ça a commencé 4-0 pour les Sharks. Finalement, le pointage final du match, c'est 25-24. Tu comprends qu'il y a des tirs de barrage à l'entracte, parce que c'est juste deux périodes. Et quand tu marques un but en tir de barrage, ça s'ajoute au tableau de ton équipe comme étant un vrai but, tu sais, contrairement à un match normal de la Ligue nationale. Puis là, en tout cas, tout le monde a score un but, tout le monde est bien content. Mon chum Luc, il dit « Ouais, Malcolm Souben, il est mauvais à tabarouette. » Ça, c'est son premier constat. Puis deuxième constat, il dit « Dan, il dit peux-tu m'expliquer qu'est-ce que Brad Marchand fait à Québec aujourd'hui? » J'ai dit, c'est très simple.
Mais il se posait la même question.
Non, mais lui, c'était pas négatif, là.
Ouais.
Il se demandait pourquoi Marchand était venu au programme.
Ouais.
Mais j'ai dit, Luc, ça te démontre à quel point Marchand et beaucoup de joueurs de la Ligue nationale ont un énorme respect envers Patrice Bergeron.
Mm-hmm.
Parce que Marchand, c'est le coéquipier de Patrice Bergeron. Marchand, il est bon pour Bergeron. Mais Bergeron, il est excellent pour Marchand. Parce qu'à chaque fois qui joue un match, soit à Boston, soit à San Jose, à Pittsburgh ou au Minnesota, puis que Marchand, sur une présence donnée, il l'échappe comme il est capable de l'échapper, ou même quand il l'échappe pas, puis il y a un coup de hockey Easton ou CCM ou Bauer dans le bas du dos, ça lui fait mal un peu, puis là, il y a un gant d'en face dans le coin, il y a tout le temps le numéro 37 qui arrive puis qui dit au défenseur, « Hey, lâche le don. »
Tasse-toi. Oui.
Mais des fois, c'est Charotte. Charotte, ça fait un peu plus peur. Mais Bergeron impose le respect quand même.
Mm-hmm.
Donc, pour tout ce qu'a fait Patrice Bergeron envers Brad Marchand pour l'ensemble de sa carrière, quand Patrice se dit à Brad Marchand, « Hey, on fait un programme pour aider de l'argent, pour aider les cinq fondations qui aident les jeunes défavorisés et les jeunes handicapés de la région de Québec, tu peux-tu venir? » C'est sûr que l'autre, il ne pouvait pas dire « Ouais! » M'en va en pêche au Mont-Valin. Mais non, il ne pouvait pas répondre ça.
T'es là pour 82 matchs pour moi dans l'année, je vais être là pour un de plus.
Exact. C'est le respect. Moi, j'ai vu ça comme un énorme respect de Brad Marchand envers Patrice Bergeron, sa présence hier au Brouhaha.
Guy nous écrit, Marchand, sa présence lui a fait beaucoup de bonheur aussi également. Il dit, j'ai pu le huer en personne quand il est
embarqué
sa patinoire.
Il est content,
Guy dit, juste pour ça, ça valait la peine. C'était très bien organisé hier soir.
Et Jeff, t'es pas au courant parce que on n'était pas ensemble au moment où c'est arrivé. Mais il faut que je te dise qu'hier, j'ai rencontré la seule et unique Chantal Hamel. Explique aux auditeurs c'est qui. Puis tu savais pas que je l'avais rencontré, mais il fallait absolument que je te le dise en nombre.
Chantal était là. Chantal Hamel, c'est une prof que j'ai eue au secondaire.
Exact.
Elle habite dans mon coin à Sainte-Croix. Puis chaque année, elle organise le Chantal Hamel Open pour sa fête. Okay. On se ramasse. C'est pas là que ça t'intéresse. Ouais, hein?
Chantal Hamel Open, c'est un drôle de
nom. C'est pas rien.
Non, c'est un drôle de nom.
Fait que là, genre un samedi après-midi pour sa fête, on s'en va dans le gymnase de l'école secondaire Pamphile Lemay à Sainte-Croix. On l'a réservé là, pour toute l'après-midi.
Ça doit faire la file pour réserver ça.
On est à peu près, je dirais, une vingtaine des anciens athlètes des Aigles Bleus. C'était notre club sportif là-bas. Puis des jeunes qu'elle a coachés au basket, mettons, des élèves qu'elle a eu dans ses classes, des anciens compatriotes. Fait qu'on est à peu près une vingtaine, puis là, on joue à un paquet de sports dans l'après-midi. On va jouer une demi-heure de Ultimate Frisbee. Après, on va jouer une demi-heure de handball. On va faire un peu de basket, un peu de badminton. À la fin de la journée, on est brûlé. On s'en va prendre une petite pinte au cube, puis on est heureux. Mais à un moment donné, Chantal Hamel, j'ai voulu la faire rire pour sa fête. J'ai demandé à Dan d'enregistrer un message comme président d'honneur du Chantal Hamel Open. Fait que là, on a projeté ça dans le gym, sur vidéo. Dan qui dit « Hey, ça me fait vraiment plaisir qu'on m'ait confié cet honneur-là cette année. » Fait que là, Chantal l'agace chaque année. Elle dit « Hey, Dan, viens-tu cette année? Dan, viens-tu cette année? » Fait que hier, elle avait pu aller le voir puis demander en personne.
Elle était là avec sa famille puis un couple d'amis. Puis c'était le fun de la rencontrer. Mais là, j'ai dit « Je vais être obligé d'y aller. » À un moment donné, ça fait comme 3 ans que je dis que j'aimerais ça y aller, mais j'ai de quoi.
Ah, tu trouves des raisons.
Non, je me sauve pas. C'est le genre d'activité. Jeff, il le sait, j'aimerais ça y aller. Mais ça donne pas. Fait que c'est pour ça qu'un jour, on avait fait la vidéo. Mais je vais y aller. Bon. L'été prochain, je vais essayer d'y aller.
Ah oui, Chantal et son chum d'homme. Dominique, c'est lui qui s'occupe de notre ligue de badminton du mardi.
OK.
Fait qu'ils sont vraiment très impliqués dans la vie sportive de Lobinière. Fait qu'il était là hier soir pour le Pro-Am. Très cool. Puis juste pour terminer sur le Pro-Am, l'arrivée sur la glace de Marc-André Fleury hier soir. Ça a été quelque chose, là.
Tu as vu l'ovation des gens? J'ai eu beaucoup de répercussions. C'est pas vrai. J'ai eu beaucoup de comment on dit, de, pas de like, là, mais sur Twitter, quand t'écris de quoi, puis les gens...
De réaction, oui.
De réaction, voilà. Merci. Parce que j'ai tweeté, parmi tous les joueurs présentés à la foule, le plus applaudi a été Marc-André Fleury. Il a tellement été applaudi, et il est tellement mal à l'aise de ça, il veut tellement être anti-star, qu'il a quitté la patinoire du Centre Vidéotron pour faire semblant se retourner dans le vestiaire pour que les gens arrêtent d'applaudir.
D'abord, il a commencé par remettre son casque.
Oui, ben, c'est ça.
Il se fait ovationner comme ça, puis il se cache
pas de
casque, la face.
Il parle avec Vincent Lecavalier à ce moment-là, quand on le présente. Là, il se rend compte que les gens applaudissent plus longtemps que pour les autres joueurs.
Ouais.
Il remet son casque.
pas qu'on le voit
toujours rouler. Son sourire clorette, ça. Ben oui. Les dents blanches, puis il est là, puis il sourit.
Puis là, il est parti à un moment donné. Il est parti dans le corridor qui mène au vestiaire. Fait que là, il dit, bon, arrêtez d'applaudir, je serai plus là. Puis il est revenu.
C'est fou,
pareil. Ah oui, il y avait du bruit, là. Nous, on a passé une petite partie. Le début du match, on était au club bas, d'en bas. On regardait le match qui était diffusé en circuit fermé, parce que c'était sur le Jumbotron du Centre Vidéotron. Puis on présentait également Chapovalov, qui était à la Coupe Rogers pour le deuxième tour. Et là, on était au club bas, puis on a entendu « Waouh! » On regarde ses écrans, c'était Marc-André Fleury qui était là.
Oh, on l'entendait jusqu'en bas.
Ah oui, hein?
D'après moi, tu étais à l'extérieur du Centre Vidéotron, tu l'entendais.
Oh oui, là, la foule a vraiment été bruyante pour Marc-André. Ouais. Puis c'était le fun de l'avoir à Québec hier soir. Donc encore une fois, un bel événement pour la 11e édition. Peut-être pas de Centre Vidéotron, là. C'était un spécial qu'on faisait pour la 10e.
Et tu sais que la ville a fourni gracieusement le Centre Vidéotron à l'organisation du programme hier.
Pour qu'ils puissent remettre les fonds au complet, qu'il n'y ait pas besoin
absolument
de louer, là.
Ben, c'est
une bonne idée.
Il n'y avait aucun frais pour habiter le Centre Vidéotron hier. Je trouve que c'est un beau geste de la ville.
Ça veut dire que pas mal proche de 100% de l'argent qui est reçu aux bonnes œuvres.
Ouais.
Tant mieux.
Donc, ça a été un beau succès hier soir du côté du Centre Vidéotron. On est le 10 août. Julie, est-ce que tu as commencé les emplettes pour la rentrée scolaire?
Non, je suis en retard.
Tu considères que tu es en retard à trois semaines comme
oui
ça?
Oui et non, parce que j'ai regardé la liste des effets scolaires et j'ai réalisé que j'en avais quand même beaucoup à la maison. Donc, la liste serait assez réduite. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un chèque qu'on fait. Hein. On fait un chèque à l'école, puis beaucoup de matériel qui vient de là. Sinon, ben c'est des feuilles de cartable. Je suis contente d'acheter des feuilles de cartable à mon fils.
Quoi?
Il rentre en secondaire 1. Il me semble que ça me rappelle des souvenirs. On achetait ça, des grosses piles de 400 feuilles, 400-500 feuilles.
Oui.
Là, c'est ça que ça va y prendre. Fait que je vais pouvoir mettre ça dans ses anneaux, dans ses cahiers anneaux.
C'est le même principe que quand on était jeune, les cartables?
Oui. Ben, en tout cas, à date, là, il y en a 3-4 à acheter.
OK.
Puis, ouais.
Ça vaut à peine d'une année à l'autre à regarder ce qui te reste puis ce que t'as pas. Moi, je me souviens quand j'étais au secondaire, chez mes parents, on s'est retrouvés au bout de mon cheminement de secondaire, là, avec des piles et des piles et des piles de 250 feuilles lignées puis des cartables vides à plus finir puis des marqueurs qui marchent encore partout.
Si t'avais pas été là 10 ans aussi, il n'aurait peut-être plus moins.
Non, mais tu sais, des fois, on regarde pas ce qui reste. Tu prends la liste, tu dis, puis finalement, les feuilles sont pas chères. C'est jamais cher, une pile de feuilles.
Non. Ouais. Mais moi, mon fils, c'est le genre à m'en passer des petites vites, là. Tu sais, à me dire, maman, mes crayons sont plus bons.
Ah, il veut des crayons neufs.
Ben oui.
Ah, OK, t'en passes une. Mais notre département de la recherche chez Cogeco a fait une petite étude, un petit sondage auprès de parents pour savoir combien ça coûtait la rentrée scolaire. Puis tu comprends, j'ai pas encore d'enfants. J'ai fait le saut un peu.
Oui, ça coûte cher.
Hein?
Ben, c'est pas juste les effets scolaires, c'est les vêtements, les souliers, c'est tout ce qui va avec, les frais de scolarité aussi, parce qu'on a beau dire, là, je sais pas quel sera le montant du chèque que j'aurai à faire cette année, mais c'est certainement 100-200 $ là, de plus.
Ouais, tu le dis avec les vêtements, les chaussures, ça augmente assez rapidement. Et on dit dans ce document-là de Cogeco que plus l'enfant est vieux, plus c'est cher, évidemment, et que les outils technologiques, les articles technologiques sont évidemment une bonne partie de la facture. Pour un enfant de moins de 5 ans, pour la rentrée scolaire, c'est 438 $ en moyenne qui sont dépensés. Avec les vêtements, avec les gadgets, avec les fournitures scolaires, tout ça, tu mets tout ça ensemble, 438 $ par enfant. Pour un enfant entre 6 et 11 ans, on est à 862 $. Et une fois au secondaire, entre 12 et 17 ans, c'est 1363 $ par enfant pour une rentrée scolaire. Je pensais pas que c'était autant... aussi cher que ça.
Ben, c'est sûr que pour les vêtements, ça coûte plus cher, je pense, parce que là, ils ont des tailles d'adultes. Là, souvent, les enfants, on peut faire... quand ils sont plus jeunes, on paie un peu moins cher, mais je suis quand même étonnée. Moi, je regarde la liste de fournitures scolaires de mon garçon. Là, il n'y a pas d'ordinateur qui sont demandés. Tu sais, ça reste avec le bon vieux compas, la calculatrice... qui calcule, je sais pas trop quoi, parce que moi, j'étais pourrie en maths.
Moi, j'utilisais pour jouer à Tetris. Calculatrice à jouer à Tetris.
OK, t'avais la calculatrice scientifique, là.
Ben, celle-là, de secondaire 4 et 5, là, c'est plutôt 4 et 5, là, mais celle-là, la grosse calculatrice qui coûte une beurrée, puis que tu revends, puis t'achètes usagée parce qu'elle coûte trop cher.
Ah, oui.
Écoute, j'avais même un de mes chums, il jouait à Mario Bros là-dessus.
Quoi?
C'est la calculatrice, je te jure. Je c'était ça, limite.
Moi, j'appelle ça un Game Boy, là.
La calculatrice graphique. T'as la scientifique, ça, c'est comme la première que t'achètes secondaire 1 à 3, mettons, là. 4 et 5, c'est la graphique. Je peux te dire en affaire, mon gars, là. Il y a du jeu qui embarque là-dedans. J'ai coulé mes 5,36.
Il y a du temps que c'est perdu là-dessus. Ouais.
Mais le trip, cette année que j'ai vu à l'école, c'était, ils font 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et là, c'est à l'infini, là. Ou fois 1, ou je sais pas trop, là. Puis là, ben, c'est celui-là qui se rend le plus loin. Juste à pitonner sur la calculatrice.
Ah oui, on a fait le chiffre le plus élevé. Moi, j'ai déjà fait ça. Ah ouais? Je sais pas, je m'étais rendu à combien.
Ouais, c'est
mais
ça. Je sais, c'est niaiseux. Jeff, il regarde, il dit, voyons donc. Mais ça, puis je joue à Tetris, tu sais.
Ouais, Tetris, c'est déjà un petit. En tout cas.
Ouais, je joue encore à Tetris.
Ça m'arrive.
Je joue pas au 1 plus 1, par exemple.
Mais ça, c'est débile. Tantôt, Julie, tu disais, mon fils, il essaie de m'en passer. D'abord, je veux juste te rassurer, il n'est pas seul à essayer d'en passer une à sa mère. Puis l'autre chose, c'est que. Il essaie de t'en passer pour changer ses crayons ou ses cahiers à eau. C'est moins pire. Il pourrait aussi, s'il jouait au hockey, j'ai aucune idée s'il joue au hockey, faire semblant que ses patins sont finis ou il veut un nouveau hockey. Son hockey, il est mou un peu. Il est pas comme quand il l'a eu. Puis là, ça serait pas des 7 et 22 puis des 41 piastres. Ça serait des 200-300 tout le temps.
Je suis assez d'accord. Souvent, c'est ça qui se passe avec les souliers. Ouais.
Ah, les souliers. Ouais, 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 ouais.
OK, ils sont usés. Hein?
Ah, ils sont usés. Puis il y en a des beaux, là.
Pour les changer, ça presse. 50% des parents interrogés par Cogeco affirment dépenser plus que le budget prévu initialement. C'est l'histoire de la vie, ça. Là. Ouais. C'est difficile de rester en dedans du budget. Et 62% des parents déclarent se soucier plus de ce dont l'enfant a besoin que des économies à réaliser. Donc, il n'y a rien de trop beau pour ma fille ou mon garçon. Des fois, ça vient un peu influencer les dépenses. Pour les fournitures scolaires, bon, 85% des gens s'en procurent parce qu'il y en manquait un peu par rapport à ce qui restait à la fin de l'année précédente. 82% des parents vont acheter de nouveaux vêtements pour la rentrée scolaire. Pour ce qui est des chaussures, on est à 78%. Et il y a quand même un parent sur quatre qui va acheter un ou des appareils électroniques en vue de la prochaine rentrée. Donc, pour mettre à jour le matériel, le iPod, l'ordinateur pour la chambre, puis pour faire les travaux, etc. Donc, c'est ça qui fait augmenter la facture pas mal.
Parlant des vêtements, savez-vous si... les vêtements, les garde-robes scolaires, pour ne pas dire les uniformes. D'autres, ils appellent ça garde-robes scolaires, pour faire comme si c'était pas un uniforme militaire. Là. c'est-tu dans toutes les écoles ou c'est juste au privé qu'il y a ça? Parce que moi, quand j'étais au secondaire, quand ma sœur, qui est 3 ans et demi, 4 ans plus vieux que moi, était au secondaire, elle s'habillait comme elle voulait. Là. Ben, en tout cas, presque. Puis quand moi, je suis rentré au secondaire, là, ils ont instauré ça, la fameuse garde-robe scolaire. Ça, c'était une méchante belle crosse. Hey, ça coûtait cher. Les vêtements coûtaient beaucoup plus cher que... Tu sais, les parents qui sont magasineux un peu, les mères qui sont magasineuses un peu, là, ça réussit à trouver des vêtements pour des prix quand même qui ont de la lueur.
Là, t'avais le veston, le polo.
Il n'y avait pas de veston, mais c'était genre le polo à 40$, la paire de culottes à 45$. Tu sais, c'est quand même pas donné.
Puis public ou privé?
C'était privé.
Okay.
C'était privé. C'est pour ça que je pose la question. Parce que c'était cheap, là, d'une année à l'autre. Pour secondaire, les enfants, ils ont pas fini de grandir. Ça fait que là, t'es obligé de racheter une garde-robe. Ça, ça coûte une méchante beurrée.
Moi, ça m'a coûté parce que là, on le fait. Là, ils rentrent au secondaire 1. On est dans une école publique. Ça m'a coûté à peu près 300 pour l'habiller, là, pour la rentrée scolaire.
Mais de
avec
linge
des vêtements
normal?
Oh,
d'uniforme.
Ouais,
vous avez... d'uniforme.
Vous choisissez pas comment il va s'habiller?
Non.
Non,
il y a des écoles publiques, c'est comme ça maintenant.
C'est ça.
Par contre, ce sont des vêtements qui sont durables, là. C'est comme au des moins. Big Bill un peu, là, les pantalons, là. Tu sais, c'est un.
Mais c'est ce que je pensais. Ça avait l'air de ça, moi, quand j'étais au secondaire. Mais il y a deux affaires. D'abord, ils n'ont pas fini de grandir. Puis ensuite, ça fait des singeries, là, un élève de secondaire 3, on s'entend, là. Pendant les pauses, le midi, ces affaires-là, ça va faire du sport habillé en uniforme, là, tu sais. Mais moi, j'ai passé à travers mes pantalons, je les ai tous déchirés. Ils ont tous fini scrap. Puis à la fin, on avait un petit tour de passe-passe parce que c'était des culottes noires ou beige. C'est que ma mère les achetait au Simons. Non, mais c'est vrai, je te jure, une marque de paire de culottes unie noire puis unie beige avec un tout petit logo blanc de rien du tout en arrière du genou, fait qu'on le voyait pas trop. Puis quand les directeurs et les profs passaient, je me pliais le genou pas trop qu'ils le voyaient. Puis ça a duré la même paire de culottes, ben en fait deux paires de culottes, 2 ans.
Ben, y a des friperies, là. Je sais que dans les écoles, même dans les écoles privées, là, tu peux te procurer des vêtements après, là. Une fois que tu as acheté ton kit initial, là, tu peux te procurer des vêtements pour beaucoup moins cher. Parce que justement, on essaie de rentabiliser puis on revend le stock que nos enfants n'ont pas porté.
OK. On a les dépenses moyennes par catégorie. Vêtements et chaussures pour la rentrée, c'est 301$ par enfant. Les fournitures scolaires, on tourne autour de 103. Et là, ben, tu rajoutes le téléphone intelligent puis l'ordinateur portable. C'est sûr que le forfait de téléphone, c'était pas là en 86, c'était pas là en 2001 non plus. Mais là, ça donne qu'on est en 2018. Fait que les enfants sont de plus en plus nombreux à en avoir. Puis ça, ben, ça fait augmenter la facture pas mal. On dit que près de 50% des parents veulent inculquer de bonnes habitudes financières à leurs enfants en leur faisant prendre conscience du budget au préalable.
Oui.
La valeur de l'argent, hein? quand tu tondes des gazons là, puis que tu gardes des enfants l'été là, pour faire une couple de piastres d'argent de poche, là, c'est pas toi qui paye nécessairement les effectifs, les articles pour la rentrée scolaire. Puis là, ben, c'est papa-maman qui ramasse la facture. Et là, tu essaies de leur montrer, regarde, c'est ça. Là. Faut que tu le transfères en connaissances qu'ils connaissent, là, qu'ils ont. Mais ça arrive pas.
Mais là, il y a des enfants là qui vont des enfants avec leurs parents qui vont aller dans les magasins où on peut avoir des fournitures scolaires et qui vont passer un moment tout à fait exécrable avec les demandes des enfants puis non pas ça puis pas telle couleur puis c'est ça. C'est pas fait encore, oui, dans mon cas.
On salue les employés qui vont, oui, vivre ça au cours des prochaines, oui, semaines. Le service au détail, c'est jamais toujours évident, là, mais dans ce cas-ci, avec la rentrée qui arrive, il y a peut-être des petits conflits, des petites crisettes qui vont se faire des magasins.
Il doit y avoir une... Tu sais, les gens qui sont techno, les programmeurs, devraient être capables de partir genre en application. Là, tu fais ta liste, ils te livrent tout ça chez vous, puis non.
Ah, ce serait bon, ça.
C'est une bonne idée.
C'est malade, ça.
Ouais. Ah oui.
J'aurais pas dû le dire en nombre. Maudite affaire.
Trop tard.
Ben, je vous la donne, mon idée. Si vous êtes bon là-dedans, cette patente-là, vous êtes entrepreneur, partez à business, puis quand ça marche pas, vous me le direz, puis on se serrera à main.
Eh oui, imagine, là, tu prends une photo de ta liste. Ils transfèrent ça en item.
Ben oui.
Puis là, ils vont vérifier les meilleurs prix, comment ça.
Bang, exact. Ils commandent, ça arrive chez vous. T'as même pas besoin de sortir, puis tu payes le prix le plus bas.
T'auras ça quand t'auras un petit Paul qui ira à l'école.
Ouais, c'est ça, un petit Paul junior. Là, je vais partir mon application.
Il vient ça avec la barbe, lui.
Il naît avec une,
ouais,
barbe, oui. Oui, oui, une barbe et une bedaine.
Puis il prend pas de truite non plus.
Non plus.
Oh, come on. Il y avait pas. C'est la première émission de la semaine qui m'écœurait pas que le fait que j'ai pas pogné une maudite truite dans mon balin.
Tu seras pas avec nous autres lundi. C'était ma dernière chance,
ouais,
que je sois plugué.
T'as raison, ouais. T'as raison, je serais pas là.
Je vais me gâter demain, moi.
Demain, tu veux dire à l'excellente émission que Québec se lève, qu'on anime ensemble.
Effectivement.
Tu vas prendre ma relève?
Oui, je lui ai demandé s'il avait mangé des fish and chips.
Oh,
oh, ouais, come on. C'est vrai qu'elle va demander ça, le pire. Mais non, j'ai pas mangé de fish and chips, vraisemblablement. À 6 petites truites de rien pour 10 personnes, on s'est pas fait un festin.
C'est pas arrivé non plus. T'sais, Mario Martel est venu nous voir hier, il parlait de Shore Lunch. Il était allé au réservoir Gouin, il en a pêché du poisson.
Alors, eux autres, ils expliquaient qu'il avait ouvert le brochet par le dos, puis qu'il l'avait désossé, puis farci par au-dessus, puis grillé. Nous autres, la truite, elle faisait 6 pouces de long, c'était la plus longue qu'on a pognée. Peux-tu dire que t'as farci pas trop ta truite de 6 pouces? Là?
Non, pas non. Trop. Pas trop. On a des bonnes nouvelles dans le marché de l'emploi. Aujourd'hui, le taux de chômage, oui, atteint son plus bas niveau en 40 ans au Canada. C'est un gain net de 54 100 postes au pays en juillet. C'est la plus récente enquête sur la population active de Statistique Canada qui a été publiée ce matin. Et on dit que le taux de chômage pour le pays est à 5,8%. Et quand on regarde pour la province, on est à 5,6%. Donc, c'est des chiffres qui sont vraiment très, très bons. Il y a deux petits bémols, peut-être, qu'il faut apporter là-dedans. On dit que le marché de l'emploi a gagné 82 000 postes à temps partiel en juillet et qu'on a perdu des emplois à temps plein, 28 000 pour être exact. Donc, ce qu'on peut pas nécessairement comparer temps plein, temps partiel, là, on a un peu de perte au niveau du temps plein. Et il y a une bonne part de l'augmentation du nombre d'emplois qui est due au secteur public. 49 600 nouveaux emplois. Quand on regarde seulement le privé, on est à 5 200 postes. Donc, on repassera pour la réingénierie de l'État puis les coupures, là. On est à 49 600 nouveaux emplois dans le secteur public. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de savoir où sont les jobs au pays. Il y a 397 000 postes vacants depuis 4 mois ou plus au deuxième trimestre cette année.
Question qu'on soit sûr que si quelqu'un nous écoute et il n'y a pas de job, qu'il s'en trouve une et qu'on fasse baisser encore plus le taux de chômage historique de 40 ans. Là,
parce que tu vois, c'est au Québec qu'il y en a le plus. Actuellement, 3,9% des postes sont vacants au Québec. En Colombie-Britannique, on est à 3,4% et en Ontario, on est à 3%. C'est vraiment les trois provinces où les besoins en main-d'œuvre sont les plus criants. Et c'est intéressant aussi de voir dans quel secteur se situent ces emplois-là. Lesquels sont les plus touchés par la fameuse pénurie de main-d'œuvre dont on parle depuis le début de l'été?
OK, on joue-tu à deviner? Parce qu'il me semble, j'avais entendu que dans le domaine industriel, là, c'était vraiment... Genre les soudeurs, là, c'était vraiment l'enfer. En restauration, ça doit être pas loin de ça, mais il me semble des jobs manuels, il doit y en avoir plusieurs, non?
Camionneurs.
Je ne l'ai pas par profession, okay, là, très, très précis. Okay. Je l'ai par industrie. Par exemple, celle qui est la plus en demande, c'est l'industrie des services personnels. Là-dedans, on rentre coiffure, nettoyage de vêtements, par exemple,
okay,
réparation de voitures, réparation d'électroménagers, c'est
okay,
ça, les maisons funéraires également. Donc, quand tu prends toute cette industrie-là des services personnels, il y a 4,8% des postes qui sont vacants à l'heure actuelle. On descend au top, dans le top 3 toujours, construction, est également en manque de main-d'œuvre. Ben oui. On est à 3,8% des postes qui sont vacants. L'industrie du transport, tu parlais des camionneurs, Julie, 3,4% des postes vacants. L'hébergement est au numéro 4.
Ouais.
Les services professionnels, j'imagine que là-dedans, on doit rentrer comptable et autres services.
OK.
Ouais, ceux-là, je ne l'ai pas en détail.
Il est moins clair, services professionnels.
Ouais. Santé et éducation à 3,1% de vacances dans les postes. Agriculture, l'industrie manufacturière, les ventes en gros à 2,8% dans les trois cas. L'administration à 2,7%. La vente de détail se trouve à 2,5% des postes vacants. Et ensuite, on arrive avec l'exploitation gazière, les mines, etc. 2,3% de postes vacants. Puis pour terminer, c'est le secteur de l'information, des arts et des divertissements à 1,8%. Donc, c'est ce secteur-là qui est peut-être le moins touché par la pénurie de main-d'œuvre.
On dirait, j'ai écouté toutes les catégories, puis je vois pas aussi qu'on pourrait rentrer restaurant là-dedans. Je ne sais pas si c'est parce qu'à Québec, il y a full restaurant, l'industrie touristique prend une part importante de l'économie pour la ville de Québec. Mais il me semble, à toutes les fois qu'on a parlé de pénurie de main-d'œuvre, c'était souvent des restaurateurs qui levaient la main pour dire « Hey, là, nous autres, on est à la gorge, là, puis on est dans le trouble. Il y en avait un qui avait fermé un vendredi parce qu'il avait pas de, il était pas capable de donner de congé à son staff. » Mais restauration là-dedans, il y a vente au détail, mais vente au détail,
ben,
c'est
pas... En fait,
pas...
je pense que j'ai mal traduit le « hospitality ». J'ai dit hébergement, hospitality, resto doit rentrer là-dedans.
Ouais, ça doit être les deux.
Exact. Donc, c'était au numéro 4 de ma liste des secteurs.
Ah, ça a de l'allure.
Ouais, mais service personnel, je suis quand même surpris. Moi, je pensais que des coiffeurs, coiffeuses, puis nettoyeurs, on avait du monde en masse. Quoique dans les garages, c'est vrai qu'il y a des besoins en termes de techniciens pour réparer les véhicules. Ils ont des gros problèmes là-dessus. Dans la machinerie lourde aussi, il y a une bonne pénurie. Donc, ça explique peut-être pourquoi ce secteur-là est au numéro 1 actuellement. Et puisqu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, il y a une petite histoire qui m'a fait sourire aujourd'hui. À Anticosti, ils ont besoin de monde également. À Port-Meunier, où il y a l'aéroport puis les traversiers, il y a à peu près 200 personnes qui vivent là à l'année. Et là, ben, il y a des gens qui voyagent pour aller à la chasse, pour aller profiter de la nature là-bas. Donc, on a besoin de monde pour les épiceries, pour les tours guidés, justement. On cherchera entre 30 et 40 personnes pour aller donner un coup de main là-bas sur 200 résidents, là. Donc, c'est un bon pourcentage qui manque. Et là, ben, cette pénurie-là a suscité des conversations au conseil de ville. Puis là, on s'est rendu compte qu'il faudrait peut-être débloquer un budget pour avoir une garderie. Ça
ben
paraît
oui,
niaiseux.
J'allais
mais...
dire peut-être même une école. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une école dans ce secteur-là, mais c'est parce qu'en fait, eux, ils vivent que de l'industrie touristique, j'imagine, les 200 personnes qui sont là.
Donc, des enfants, il n'y en a pas beaucoup.
Ouais.
On a dit, on n'a pas de garderie ici. Fait que ça nous en prend une. Donc, ils ont mis de l'argent de côté pour ouvrir une première garderie. Actuellement, depuis le mois de juin, là, ça vient d'ouvrir. Il y a 4 enfants qui y vont. On s'attend à ce qu'il y en ait 2 de plus qui se joignent à la cohorte pour l'automne prochain. Puis, pour opérer cette garderie-là, c'est une Française de 20 ans avec son chum de 23. Ils ont vu un documentaire sur Anticosti à la télé française. Ils ont dit, hey, ça a l'air donc bien cool, la nature comme ça. On marche 5 minutes, on est rendu, on peut aller pêcher, profiter de la forêt. Puis le lendemain où il y a eu cette conversation-là pour la première fois au conseil de ville concernant la fameuse garderie, le chum de 23 ans a écrit à la ville d'Anticosti, « Ouais, auriez-vous besoin de monde pour une garderie? » Puis là, le maire, il disait, voyons, ça se peut pas. On en a parlé hier, c'est une joke. Puis non, c'était bien vrai. Ils étaient intéressés, eux, à s'établir là-bas. Donc, ils ont pris le baluchon, puis ils sont envenus à Anticosti. Ils ont ouvert cette garderie-là. Ça s'appelle Mathilda Palanca, la jeune Française de 20 ans. Son chum, c'est Anthony Solaire. Ils viennent de Lyon. Puis ils sont installés carrément à Anticosti au début du mois de juin. Spécifiquement pour ça, eux disent qu'ils veulent vraiment rester là à long terme. Ils veulent s'établir, puis fonder leur famille, puis vivre leur vie à Anticosti. Mais ils trippent au bout, puis ils viennent d'ouvrir la garderie.
Je te ferais une genre d'école là, spéciale, plein air. Là. Non, mais je te ferais des Arthur l'aventurier, là. Tu sais, t'es forme. Non, mais t'es forme pour devenir des kingpins du plein air, être capable de vivre dans survivaliste, toute la patente. Puis après, ben déjà, ça permet, de vivre sur Anticosti, pas être trop dans le trou, parce que c'est vrai que nourrir ce monde-là, faire venir de la bouffe, de l'eau courante.
Ben, si tu manges du chevreuil, y a pas de trouble.
Ben, c'est ça. Ben, encore faut-il que tu le chasses, tu le trouves, tu l'apprêtes, puis bon, tu.
Il est dans ta cour,
tu le maximises, puis non, je le sais. Mais si tu formes des Rambo de la forêt, là, tu sais, ben là, t'es capable d'avoir du monde qui vont vivre sur ce style-là. Puis après, ben, ça te fait des méchants bons guides touristiques pour n'importe quelle pourvoirie, puis les réservoirs du lac Gouin, puis amène-les. Puis ça fait du monde qui sont qualifiés pour aller là. En tout cas, moi, j'aurais aimé ça aller dans une école de Rambo de la forêt, parce que quand je t'allais pêcher, tu vois, ça n'a pas marché. J'avais pas ces compétences-là. Peut-être un petit cours de plein air, ça m'aurait aidé. En tout cas,
une autre demande. Regarde, t'as eu ton application pour les articles scolaires, puis cette école-là, là-bas.
Parlant de l'application, ces articles scolaires, il y a plein de monde qui me viennent en aide, parce que on dit que chez Club Jouet, ils fournissent la liste scolaire, puis après ça, ils font tout pour toi. tu passes payer, bingo. Chez Club Jouet.
Ah ouais.
Je savais pas qu'ils vendaient des fournitures scolaires. Sur la rive sud, commission scolaire des navigateurs, ça a l'air, tu peux tout commander tes articles scolaires en fonction de la liste de tes enfants sur le site internet de la Coopsco. Les coops qu'il y a dans les écoles.
Scolaire,
là,
ouais.
Il y a une de ces chaînes-là, c'est Coopsco. Mais sur le site de la coop, tu peux tout acheter et ils font livrer ça à domicile, semblerait. En fait, tu peux aller le chercher sur place ou ils livrent chez vous. D'autres, ma boutique scolaire, c'en est une autre. T'as la liste d'école, tu commandes en ligne et livres à l'école de ton enfant.
Ouais, je suis là-dessus, là, puis ils ont l'air d'être à Québec, eux autres, ma boutique scolaire, ou dans la grande région, ouais. Ils sont dans le 88. Là,
certaines pharmacies qui le font aussi préparent des sacs d'école en fonction de la liste d'école de tes enfants. Tu leur envoies la liste, puis eux autres, ils te trouvent un sac, ils te mettent tout ça là-dedans, puis tu vas chercher le sac, t'es prêt. Je sais pas si, la défaillance que je vois là-dedans, parce que c'est tout vraiment très bon, là. Mais je me dis, le jour où tu es capable d'avoir un agrégateur de toutes tes pharmacies, bureaux en gros, et tous ces magasins-là, toutes ces papeteries-là, puis là, ça te permet de choisir le moins cher. Là, ça commence à être le fun. Parce que la coop, par exemple, moi, je me souviens quand j'étais au cégep, la fameuse coop, c'était pas pire. Tu sais, t'as besoin d'un cadenas, puis tu n'en as pas, ben, ça te le prend tout de suite, ton cadenas. Tu y vas, tu le ramasses, bon, mais qui te coûte 2 piastres de plus, pas grave. Mais sur une longue liste de matériel scolaire, là, le prix, il paraît quand tu cherches pas les rabais nécessairement.
Ça dépend justement quelle semaine tu vas aller magasiner, parce que les rabais changent d'une semaine à l'autre, là. Mais ça pourrait créer un emploi à quelqu'un, peut-être, même un étudiant de 14-15 ans, là, qui dit, ben, moi, je vais aller sous-traiter vos emplettes scolaires.
Moi, je ramasse les listes, puis je fais le tour des magasins avec mon scooter, puis ma mobylette, puis mon trailer en arrière.
Ce serait un casse-tête de moins, là. Si on peut, je pense qu'il y a bien des parents qui pouvaient, s'ils pouvaient se l'épargner.
Ton
là.
Fils, il ne cherchait pas un job, Julie.
Ouais, c'est ça, prends des notes pour les prochaines années.
C'est bon, c'est un petit job d'été.
Bon, on va y régler ça. Il y a pas mal de choix de sortie à Québec en fin de semaine. Ce n'est pas les activités qui manquent. Du côté de Lévis, il y a le festival jazz, etc. Jusqu'à dimanche, la programmation complète est au jazzlévis.com. Il y a le Vélirium qui commence aujourd'hui au Mont-Saint-Anne. Un peu plus tard dans l'émission, on va parler à Raphaël Gagné, l'athlète en cross-country qui va compétitionner en fin de semaine. Le Comédia Fest est commencé depuis mercredi. Il y a 2 sites gratuits au Parc de la Francophonie ainsi que sur la place Georges V devant le manège militaire. Sinon, ça prend vos lunettes. Il y a les galas également, mais il reste un peu moins de billets. La programmation complète est au comediafest.com. On en a parlé il y a environ 1 semaine et demie ou 2 semaines. Plein air, c'est toujours en cours. Le Salon des métiers d'art, c'est jusqu'à dimanche. Donc, si vous n'y êtes pas encore allé, c'est la dernière occasion pour le faire. Je vous parlais plus tôt cette semaine également de Feria, le nouveau spectacle de la troupe Flip Fabric. C'est le premier week-end. C'est jusqu'au 2 septembre. C'est présenté du mardi au dimanche. Donc, 3 représentations en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche à 20h30. Les 24 heures du lac Beauport, on a reçu Philippe Canac-Marquis en entrevue avec Éric Arbour. Cette machine qui va passer 24 heures sur son vélo en fin de semaine. Ça commence demain à 14h. Puis il y a le volet marcheur d'un tour. Vous arrivez là, vous donnez 15$. Desjardins donne 10$ de plus pour arriver au 25, puis vous pouvez faire un tour pour encourager une des 4 fondations qui sont appuyées. Donc, c'est une belle idée de sortie.
Faire vous donne un T-shirt.
En plus!
T'sais.
En plus, puis le tour du lac, c'est pas si intimidant que ça. C'est 7,2 km. Prends ça, relax.
Il parlait 1h30.
À peu près.
1h30 de marche, ça a de l'allure. Quand même, c'est une bonne marche, là, mais c'est pas non plus rien pour revenir et avoir mal aux pieds.
Oui, ça se fait super bien. Sur les plaines d'Abraham, demain, à 13h30, il y a une activité d'échange de regards. Ça m'intrigue un peu.
C'est un Tinder live?
Genre.
Ben voyons donc.
Ouais, fait qu'ils matchent les gens, puis à tour de rôle, ils vont passer, je sais pas, 2-3 minutes à se regarder dans les yeux, puis après, c'est next.
Paul, on va là.
Écoute, non, mais moi, là, je te jure, là, Jeff, tantôt, juste pour le fun, il me regardait dans les yeux, là. Je comprenais pas pourquoi. Puis là, il me dit, là, je vais te regarder dans les yeux pendant plusieurs secondes, là. Je trouve tellement ça intimidant. J'aime pas ça. J'ai le goût de dévier le regard. Je trouve ça, ça m'irrite. C'est comme si tu rentrais dans mon intimité, puis là, tu venais un peu lire ce qui est écrit au plus profond de mon âme.
Ouais, tu vois mon âme.
Ça m'appartient, ça. C'est pas de vos affaires, vous autres.
Mais les gars, avec votre barbiche, là, vous pourriez jouer à Je te tiens par la barbichette.
Oui.
C'est un peu le même principe.
On pourrait commencer ça. C'est comme un gros tournoi, finalement.
Ah, ouais. Mais moi, je suis pas bon à ça. Mais là, c'est des inconnus, bref, qui vont aller s'asseoir face à face dans un auto de votre TQS.
C'est à 1h30 demain au Plaine d'Abraham, si ça vous tente d'essayer ça. Sinon, ben, on peut le faire au travail. Aujourd'hui, allez voir un collègue. Dites-lui, prenez 5 minutes, là, puis on se regarde dans les yeux.
Puis nos collègues qui nous écoutent d'un bureau, là, faites-moi le pas. Faites-moi pas ça.
Y a-t-il un prix? C'est quoi? C'est...
Non, c'est juste pour partager un moment d'intimité
avec
un
connexion humaine, là.
Ouais.
Pas de Facebook puis de Tinder, justement.
OK, OK, OK.
Face à face.
D'accord.
Donc, demain, à 1h30. Les Grands Feux d'Auto-Québec, demain soir également, c'est la salsa cubaine. Et ben, il y a un paquet de films qui sortent en fin de semaine. Je vais me le garder pour un petit peu plus tard dans l'émission. Il y a au moins 3 grosses nouveautés. À la télé, Insatiable sur Netflix, la fameuse série qui a déjà fait jaser à cause d'une bande-annonce. On disait grossophobie, grossophobie. Mm-hmm. Les gens n'ont pas vu la série, puis ça chialait déjà, pétition, toute la patente. Donc, les gens vont pouvoir se faire une idée en regardant.
Elle est sortie hier, aujourd'hui?
Ça sort aujourd'hui.
OK, c'est ça. Ouais. Il y a déjà des critiques, puis c'est drôle parce qu'il y a déjà des critiques, puis les critiques disent « Ah non, c'est mauvais, le scénario est pas bon, les acteurs sont pas bons, les blagues sont pas drôles. » Le problème, c'est que tu sais pas si c'est vraiment mauvais ou si les critiques, c'est les mêmes qui voulaient empêcher la sortie de l'émission puis qui disent ça pour la planter.
Qui manifestaient contre un produit qu'ils n'avaient pas vu.
Exact, exact.
Ça s'est pas vu du tout cet été.
Ben j'ai même lu... c'est ça j'allais dire. C'est un phénomène très rare.
J'ai même lu un titre dans le journal Métro, qui est quand même un grand quotidien de Montréal, là. Un titre de chronique dans le journal Métro qui disait « Pas besoin de le voir pour savoir que c'est une mauvaise idée. »
Ben oui.
Et là, je me disais « Non, mais ça se peut pas écrire des affaires de même. » Mais au contraire, okay. Il faut que tu le voies pour savoir si c'est bon ou pas, là.
Tu sais, si c'est un critique qui dit ça, c'est comme « OK, ben regarde, le boss va te faire venir dans le bureau, puis j'ai plus besoin de toi,
pas besoin de le voir. » Puis il faut quand même faire une nuance entre les propos artistiques avec lesquels on n'est pas d'accord, puis les appels à la haine puis à la violence. Ça, c'est quand même deux choses différentes. Mm-hmm. Je me souviens qu'il y avait un gars, à un moment donné, un rappeur américain qui s'était fait arrêter à la frontière, Ashton Bronson, un enfant nommé Action Bronson.
Oui.
Je sais plus trop son nom, mais lui, c'est parce que ses textes, c'est vraiment des appels à la haine, à la violence, puis au soulèvement, puis tu sais, fait que ça, moi, je comprends ça, qu'on censure ça, entre guillemets, même si j'aime pas la censure. Mais là, c'est pas pareil. Là, on s'entend que c'est des propos avec lesquels on n'est juste pas d'accord, qui sont pas des appels à la haine. Mm-hmm. C'est juste, on dit, l'histoire de cette fille-là, c'est que elle est obèse, elle a un accident, elle peut plus s'alimenter comme il faut, donc elle perd beaucoup de poids, puis elle devient une super belle fille, pétard, canon de beauté, machin. Puis là, ben, après ça, elle retourne à l'école, puis tout le monde veut être ami avec elle, puis elle se venge. Donc, les gens, ils disaient, ben, elle passe de obèse qui se fait écœurer à pitoune que tout le monde, avec qui tout le monde veut être. Donc, c'est pas un propos que moi je partage et que je voudrais qu'il se propage. Donc, j'empêche que ça soit diffusé.
Oui.
Ben non, c'est pas comme ça qu'on tient un débat de société. Mm-hmm.
Donc,
en empêchant les gens de...
Attendez-vous à voir des articles sur la grossophobie en fin de semaine dans les journaux une fois que les gens auront pu regarder la série. C'est disponible depuis aujourd'hui, Insatiable sur Netflix. Puis si vous aimez la télé québécoise, moi j'ai beaucoup aimé les deux premières saisons des Simone. Mm-hmm. La troisième va être diffusée dans les prochains mois à Radio-Canada, mais dès aujourd'hui sur Véro.tv, c'est disponible la saison intégrale. Si vous êtes abonné Tout TV Extra, c'est inclus dans votre abonnement. Sinon, il y a une offre d'essai gratuit de 1 mois. Donc, si vous voulez juste binge-watcher les Simone saison 3, vous vous inscrivez. Dans 1 mois, vous vous désinscrivez si vous n'avez pas aimé le produit. Puis, c'est possible pour vous. Donc, c'est en ligne déjà dès aujourd'hui, saison 3 des Simone.